Bonjour Charles Decon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias à l'instant, le sommaire du jour.
Le monde du foot est inquiet, un sujet sensible dans Envoyé spécial, Éric Zemmour et les dinosaures en quarantaine.
Et on commence par les audiences évidemment. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Eh bien c'est TF1 qui a pris la première position avec un match de foot opposant la France à l'Ukraine. En moyenne, 4,6 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre, soit 21% du public. France 2 est deuxième, une fois n'est pas coutume avec un épisode d'Alex Hugo. Même en rediffusion, la série avec Samuel Le Bihan a été suivie par 4,2 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 18,4% sur l'ensemble du public. Sur M6, le meilleur pâtissier a profité de cette concurrence inhabituelle pour s'imposer largement sur la cible des femmes de moins de 50 ans avec 27% de part d'audience. Et sur l'ensemble du public, le concours de pâtisserie pointe à 2,7 millions de personnes et 13,7% de part d'audience.
Culture Média. Et vous aviez commencé les audiences par le foot. On commence ce journal des médias par le foot. Les tensions entre Mediapro et la LFP, la Ligue de football professionnel.
Mediapro, c'est le plus gros diffuseur du football français et donc son plus gros financier. Le groupe débourse 780 millions d'euros chaque année pour 8 matchs de Ligue 1 et 34 millions d'euros par an pour une partie de la Ligue 2. Tout ça est diffusé sur Téléfoot, la chaîne du foot. Sauf qu'hier soir, l'équipe a révélé que Mediapro avait demandé un délai supplémentaire pour régler son acompte du mois d'octobre, qui s'élève quand même à plus de 140 millions d'euros. La LFP a refusé et les clubs sont désormais inquiets, car faute de billetterie à cause du Covid-19, ces droits télé représentent une bonne partie de leur rentrée financière une fois que la LFP les leur reverse.
Et le patron de Mediapro s'explique ce matin dans les colonnes de l'équipe.
Oui, ce n'est pas juste un report de paiement que le groupe espère, mais bien une renégociation complète des termes mêmes du contrat. Évidemment, Mediapro met en avant la pandémie et ses conséquences financières pour réclamer cette renégociation. Le contrat a été établi dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. C'est évident, il faut en parler. Voilà ce qu'a expliqué le patron de Mediapro. Il a également précisé que la Ligue avait donné son accord pour entamer des discussions et qu'elle s'était tournée vers le gouvernement pour réclamer une aide afin de compenser ses pertes.
Une aide gouvernementale pour le football. Direction la Biélorussie pour un reportage exceptionnel ce soir dans Envoyé spécial.
Je m'appelle André Vaitovic, j'ai 26 ans, je suis journaliste. Depuis 2 mois, je couvre pour les médias francophones les événements qui secouent mon pays. Je travaille clandestinement. Aucun journaliste étranger n'est accrédité par le pouvoir. Ceux qui essayent de rentrer sont arrêtés et expulsés.
Les manifestations se poursuivent en Biélorussie depuis la réélection cet été d'Alexandre Loukachenko. Je rappelle que le vote est considéré comme frauduleux par l'Union européenne, notamment que des sanctions ont été prononcées suite à la répression à l'encontre des manifestants qui demandent le départ du président. C'est dans ce contexte très tendu qu'Andrei Vaitovic a tourné ce reportage pour Envoyé spécial. Donc il l'a dit, il est le seul journaliste francophone présent sur place et il a expliqué à Louise Bernard à quel point il était difficile d'informer dans ces conditions.
Il y avait des scènes que j'ai dû tourner discrètement, par exemple près du centre de détention, le commissariat. Je sais que il y a des caméras partout, je sais qu'il y a des snipers sur les toits, donc il ne faut pas provoquer un conflit. On sait que les journalistes sont visés, que les journalistes peuvent être arrêtés facilement, que le matériel sera saisi, donc il fallait faire des choix parfois. Au lieu de suivre un personnage jusqu'à la fin de la manifestation, il fallait partir plus tôt pour garder les images.
Le reportage s'intéresse en particulier à la jeunesse biélorusse, comment elle s'organise, comment elle lutte pour l'avenir du pays et pour sa liberté. Andrei Vaitovic a interviewé plusieurs de ces jeunes qui témoignent dans le sujet et il avoue être inquiet pour leur avenir.
Tout d'abord, je voulais montrer cette jeunesse que même moi personnellement je ne connais pas vraiment, parce que moi je suis parti il y a presque 10 ans. Au début de cet été, j'ai senti que un truc se passe. Je me suis dit, je ne peux pas rester à Paris. Je suis parti comme ça, sans commande de médias. Et déjà, en arrivant sur place, j'ai tout de suite compris que c'est le moment historique, c'est un tournant politique dans l'histoire. Et la mobilisation de la jeunesse m'a inspiré. C'est les enfants de la dictature. C'est les jeunes qui n'ont pas connu d'autres présidents que Alexandre Loukachenko. C'est même étrange de dire aujourd'hui que c'est un président, parce que pour ces jeunes-là, aujourd'hui, ce n'est plus un président, c'est un dictateur, c'est un usurpateur qui reste au pouvoir, qui ne lâche pas le pouvoir malgré la pression.
Voilà, rendez-vous ce soir dans Envoyé spécial dès 21h05 sur France 2.
Il faut oser dire ça quand on est sur place, très courageux journaliste. Éric Zemmour, privé de plateau sur CNews et sur Paris Première.
Alors non, les deux chaînes n'ont pas sévi suite au propos du polémiste la semaine dernière sur les migrants isolés. Éric Zemmour a beau faire l'objet de plusieurs plaintes depuis la semaine dernière, il est toujours à l'antenne dans Zemmour et Nolo chaque mercredi en prime sur Paris Première et dans Face à l'info tous les soirs sur CNews. Sauf qu'hier, il a tourné les deux rendez-vous à distance des autres intervenants. Sur Paris Première, c'est en duplex d'une loge qu'Éric Zemmour a participé à l'émission enregistrée plus tôt dans la journée. Et sur CNews, il était en direct d'un bureau isolé de la chaîne pour donner son avis sur l'actualité. Voilà comment Christine Kelly, qui anime l'émission, a présenté la chose.
Bonsoir à tous, bonsoir messieurs, bonsoir à Éric Zemmour qui est exceptionnellement ce soir un peu loin mais proche en même temps par FaceTime. Vous n'avez pas pu être avec nous mais vous êtes là quand même, hein, rassurez-nous. Vous nous entendez ?
Je vous entends très bien.
Parfait. Qu'est-ce qui se cache ? On va parler avec vous, Éric Zemmour, derrière la défense du bien-être animal.
Voilà, vous vous en doutez, si les deux émissions en sont arrivées là, c'est à cause d'une suspicion de Covid. Éric Zemmour était fiévreux hier, selon Le Parisien, et toutes les précautions ont été prises pour qu'il ne contamine pas son entourage. Un test PCR a été réalisé dans la matinée. En attendant le résultat, toute l'équipe de Face à l'info est en quarantaine et des tests sont organisés du côté des équipes de Zemmour et Nolo.
Et le retour du feuilleton du Covid, on en parlait déjà hier, on en reparle aujourd'hui. Le Covid-19 frappe à nouveau Jurassic World 3.
Alors hier, je vous annonçais le décalage de la sortie du troisième volet de la saga Jurassic World. Il verra le jour au printemps 2022 alors qu'il était à l'origine attendu en 2021. En cause, c'est pas un retard de tournage, mais un embouteillage de grosses sorties qui sont désormais prévues au printemps 2021 entre le nouveau James Bond et Fast and Furious 9. Je vous disais même que Jurassic World avait été l'un des premiers blockbusters hollywoodiens à reprendre le tournage suite à la mise en place de mesures sanitaires qui auraient coûté 5 millions de dollars au studio Universal. Omar Sy, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ou encore Sam Neill ont repris le travail dès le mois de juillet. Tous ont été logés dans un hôtel entièrement privatisé par Universal et 27 000 tests ont été réalisés depuis sur toute l'équipe. Mais on a appris hier soir que ces mesures drastiques n'ont pas suffi. Plusieurs membres de l'équipe ont été testés positifs au coronavirus. Résultat, alors que le tournage devait se terminer dans 3 semaines, tout a été interrompu pour les 2 semaines à venir. Mais bon, rien de dramatique. Avec une date de sortie prévue en 2022, Jurassic World 3 peut se permettre de prendre 15 jours de retard.
Et puis Charles, on en parlait également hier et on en reparle aujourd'hui. Facebook continue de sévir face au contenu dangereux.
Hier, je vous disais que le réseau social allait bannir toutes les pages et les groupes liés à la mouvance complotiste d'extrême droite. Aujourd'hui, c'est en prévision des tensions post-élection américaines que Facebook se prépare. Vous l'avez sans doute entendu, Donald Trump assure depuis des semaines qu'une fraude électorale sans précédent se prépare.
Ouais, le vote par correspondance, dit-il.
Voilà. Donc beaucoup appréhendent que des candidats publient des spots publicitaires dès le 3 novembre, date de l'élection, pour clamer leur victoire ou appeler à la révolte en cas de défaite, et ce, avant la publication de résultats définitifs. Du coup, Facebook va interdire toute publicité politique pendant au moins une semaine après le 3 novembre. Cette interdiction s'ajoute à celle que le réseau social avait déjà mise en place pour la semaine avant les élections, pour éviter que des fake news pullulent à quelques jours du scrutin. Et le réseau social a également mis en place un système de suppression de tous les messages qui inciterait par exemple à se rendre au bureau de vote avec des armes à feu, ou à essayer de décourager les gens de voter. Tout message utilisant du langage militaire en lien avec les bureaux de vote sera ainsi supprimé.
Et puis on parlera de Facebook avec notre invité culture tout à l'heure, Marc Léville, romancier, qui compare Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, à Goebbels, carrément le ministre de la propagande du Troisième Reich. Merci beaucoup Charles Decan, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Notre